Chapitre 18. L'équipage du Dernière Chance était installé dans un canapé de la salle de repos, chacun avec sa boisson de prédilection à la main. Le commandant Yao buvait une bière allemande, l'ingénieur Ilyukina une énorme vodka. Quant au spécialiste scientifique Dubois, il avait pris soin d'ouvrir une bouteille de Cabernet Sauvignon 2003 à l'avance pour laisser le vin décanter. Cette salle de repos avait été la source d'âpres conflits. Strat désapprouvait tout ce qui n'était pas directement lié à la mission, d'autant que l'espace libre était rare sur un porte-avions. Elle avait cédé, cependant, car la grosse centaine de scientifiques venus du monde entier avait besoin de se détendre un peu. Cette extravagance avait donc été aménagée dans un coin du pont-hangar. Des dizaines de gens s'y massaient pour regarder les écrans de télévision fixés au mur, tandis que le canapé était réservé à l'équipage principal. Celui-ci avait droit à plein d'avantages et à côté. Après tout, il se sacrifiait pour l'humanité. Lui donner les meilleures places, c'était la moindre des choses.
« Nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres du décollage », disait le reporter de la BBC.
« Nous aurions pu regarder les informations américaines, chinoises ou russes, cela n'aurait rien changé. » L'on voyait en alternance des plans larges du cosmodrome de Baïkonour et des vues rapprochées de l'énorme lanceur sur sa rampe. Le journaliste se tenait dans la salle d'observation, surplombant le centre de contrôle de mission de Moscou.
Ce sera le 9e d'une série de 16 lancements prévus pour le projet Dernière Chance, et certainement le plus important de tous. Le chargement comporte en effet le cockpit, le laboratoire, ainsi que le module dortoir. Des astronautes à bord de la SSI se tiennent prêts à les recevoir et les assembleront durant les 2 semaines à venir sur le cadre du vaisseau, monté à l'occasion des missions précédentes.
Hé, enfoiré de Roscosmos, ne bousillez pas ma future maison,
lança Ilyukina en levant son verre de vodka.
Ne sont-ils pas vos amis? Demandai-je.
Ce sont mes amis et des enfoirés,
rétorqua-t-elle dans un éclat de rire. Le compte à rebours apparut à l'écran. Il restait moins d'une minute. Yao se pencha en avant pour regarder attentivement. Ce devait être dur pour lui, le soldat, l'homme d'action, d'assister passivement à une étape si importante de la mission. Dubois remarqua l'inquiétude de Yao.
« Je suis sûr que tout va bien se passer, commandant, » dit-il.
« Hmm, »
répondit Yao.
« Plus que 30 secondes, » intervint Ilyukina. « Je ne peux pas attendre si longtemps. »
Elle vida sa vodka d'un trait et alla se resservir. Les scientifiques rassemblés s'agitaient de plus en plus à mesure que les secondes s'égrenaient. Pour ma part, j'étais comme cloué au canapé, hypnotisé par le spectacle.
« Madame Strat ne se joint pas à nous ?»
me demanda Dubois en se tournant vers moi.
« Je ne crois pas. Les trucs amusants comme les lancements ne l'intéressent pas. Elle est sûrement en train d'étudier quelques tableaux dans son bureau. »«
Heureusement que nous vous avons. » conclut-il en hochant la tête. « Vous la représentez, en quelque sorte. »«
Moi ? La représenter ? Drôle d'idée. »«
Vous êtes le numéro 2, non ?»
intervint Ilyukina en me regardant.
« Vous êtes le premier officier du projet Dernière Chance. »«
Quoi ?
Non, je suis un scientifique parmi d'autres, comme ces gars, »
protestai-je en montrant les femmes et les hommes derrière nous. Ilyukina et Dubois échangèrent un regard.
« Vous pensez vraiment ce que vous dites ?»
s'enquit la jeune femme.
« Vous n'êtes pas comme nous, Grace, »
lança Bob Reddle dans mon dos.
« Bien sûr que si, » me rebellai-je en haussant les épaules. « Pourquoi serais-je différent des autres ?»«
Que vous le vouliez ou non, » reprit Dubois, « vous êtes spécial aux yeux de Strat. À vrai dire, je pensais que vous couchiez ensemble. »«
Quoi ?» m'écriai-je, bouche bée. « Mais vous êtes complètement malade. Sûrement pas. »
« Mouais, »
douta Ilyukina.
« Vous devriez peut-être. Elle est tellement coincée. Ça lui ferait du bien de se faire retourner dans la paille. »«
Oh mon Dieu, c'est ce que pensent les gens ?»
Je me tournai vers les scientifiques, qui évitèrent tous de croiser mon regard.
« Il n'y a rien du tout entre nous. Et je ne suis pas le numéro 2, je suis un simple scientifique, qu'on est venu chercher comme vous autres. »
Yao se retourna pour me regarder. Le silence se fit dans la salle. Comme il ne parlait pas souvent, on avait tendance à l'écouter.
« Vous êtes le numéro 2, » dit-il avant de se tourner vers l'écran.
Le journaliste de la BBC décompta les dernières secondes en même temps que l'horloge affichée sur le moniteur.
3, 2, 1, décollage.
Des flammes et de la fumée entourèrent la fusée, qui s'éleva dans le ciel, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Ilyukina leva son verre de vodka pendant quelques secondes avant de s'enthousiasmer.
« Elle a dépassé la tour, on a réussi !»
et d'avaler sa vodka.
« Elle n'est qu'à 30 mètres du sol, remarquai-je. Attendez peut-être qu'elle soit en orbite. »
Les astronautes se congratulent dès que le lanceur a dépassé la hauteur de la tour ombilicale de la rampe, expliqua Dubois en sirotant son vin. Sans un mot, Yao prit une gorgée de bière.
Pourquoi ça ne marche pas ?
Chaque mot s'accompagne d'une double claque sur le front. Je me laisse retomber sur la chaise du laboratoire, découragé.
« Pas prédateur ? Question ?»
me demande Rocky qui m'observe depuis son tunnel.
« Pas de prédateur », acquiesçais-je dans un soupir.
L'expérience est très simple. Il y a une ampoule en verre pleine de l'air d'Adriane. Enfin, pas réellement. J'ai préparé un mélange fondé sur les résultats du spectrographe. La pression est faible, 1/10 d'atmosphère, comme dans les hautes strates, au-dessus de la planète. Dans l'ampoule, j'ai également mis les formes de vie récoltées dans l'espace, ainsi que des astrophages frais. Je me disais que cette chair fraîche ferait augmenter la population des prédateurs, qui seraient devenus les cellules dominantes et donc faciles à isoler. Mais cela n'a pas marché.
« Vous, certains ? Question ?»
Je vérifie sur mon indicateur de chaleur. Il s'agit d'un simple thermocouple dont une partie est plongée dans de l'eau glacée et l'autre fixée à l'ampoule. La chaleur est émise par les astrophages et absorbée par la glace. La température du thermocouple me dit alors quelle quantité d'énergie libère les astrophages. Si la température descend, cela signifie que la population d'astrophages diminue.
Cela n'arrive pas, cependant. Oui, j'en suis certain. Je ne note aucun changement dans la population d'astrophages.
Peut-être température ampoule pas bonne, trop élevée. Température haute atmosphère Adriane, probablement plus basse que température ambiante laboratoire.
La température de l'air d'Adriane ne devrait avoir aucune importance, lui rétorquai-je en secouant la tête. Le prédateur doit être capable de supporter la température de l'astrophage lui-même.
Ah oui, vous raison.
Peut-être la théorie du prédateur est-elle fausse ?
J'entends les pattes de Rocky cliqueter dans son tunnel, comme il se dirige de l'autre côté du laboratoire. Lorsqu'il réfléchit, il marche. Il est intéressant de constater qu'Iridiens et humains partagent ce même comportement.
Prédateur, seule explication. Peut-être prédateur vivre hors ligne de Petrova. Peut-être prédateur vivre plus bas dans l'atmosphère.
Peut-être bien, l'approuvai-je.
Je me tourne vers le moniteur du labo. J'y ai affiché une vue extérieure de la planète. Sans raison particulière, parce que je trouve ça beau. Nous sommes sur le point de traverser le Terminateur pour survoler la moitié éclairée de la planète. La lumière de l'aube orbitale décrit un arc scintillant.
Bon, admettons que le prédateur vive dans l'atmosphère. À quelle altitude ?
Quelle altitude la meilleure ? Question. Si vous, prédateur, où vous vivre ? Question. Vous allez là où astrophage ?
D'accord. À quelle altitude sont les astrophages, alors ?
Poser la question, c'est y répondre.
Ah, il y a l'altitude à laquelle ils se reproduisent, là où l'air contient assez de dioxyde de carbone pour qu'ils se reproduisent.
Oui.
Il fait demi-tour en faisant cliqueter ses pattes et revient au-dessus de moi.
Nous trouver, facile, utiliser Petrovascope.
Mais oui, bien sûr, m'écriai-je en donnant un coup de poing dans ma paume.
Les astrophages se reproduisent bien quelque part. La clé doit être la pression partielle du dioxyde de carbone. Inutile de nous casser la tête ou de faire des suppositions, cependant. Lorsque l'astrophage se divise, lui et son rejeton se dirigent vers Tau Ceti grâce aux émissions de lumière infrarouge. Cela signifie qu'il doit y avoir un rougeoiement sur la fréquence de Petrova à une altitude particulière, tout autour de la planète.
À la salle de contrôle.
Salle de contrôle.
L'Iridien traverse le plafond à toute allure et fonce dans la salle de contrôle par son propre passage. Je le suis comme je peux,
mais je ne suis pas aussi rapide que lui. Je gravis l'échelle et m'installe dans le fauteuil du pilote pour allumer le pétrovascope. Rocky a déjà pris position dans son bulbe et braque sa caméra sur le moniteur principal. L'écran tout entier est rouge.
Aucune donnée? Question. Pourquoi? Question.
Attendez. J'ouvre la fenêtre des contrôles et options et je commence à bouger les curseurs. Nous sommes à l'intérieur de la ligne de Petrova. Il y a des astrophages tout autour de nous. Je vais changer les réglages pour isoler les sources les plus intenses. Ce n'est pas simple, mais je parviens à sélectionner la bonne luminosité. Il en résulte des taches irrégulières d'infrarouge émis au-dessus d'Adriane.
Voici notre réponse, je crois.
Rocky se rapproche de son écran texturé pour voir ce que je regarde. Ce n'est pas vraiment ce que j'attendais. Je pensais découvrir une strate uniforme à une altitude précise. Ce n'est pas du tout le cas. Les taches sont des nuages en réalité, mais qui ne correspondent pas aux nuages blancs arachnéens que je vois de mes yeux. Ces nuages sont des nuages IR, ou plus précisément, des nuages d'astrophages émettant des IR. Pour une raison qui m'échappe, les astrophages se reproduisent dans ces zones plus que dans d'autres.
« Distribution inhabituelle, »
dit Rocky, faisant écho à mes propres pensées.
« Oui, peut-être que la météo affecte la reproduction. »«
Peut-être. Possibilité calculer altitude. Question. »
« Oui. Attendez. » Je zoome et déplace le pétrovascope jusqu'à trouver un nuage d'astrophage sur la ligne d'horizon. L'affichage me montre l'inclinaison de la caméra par rapport à l'axe du vaisseau. Je prends note de ces angles et active la console de navigation qui me donne l'angle par rapport au centre de notre orbite. Grâce à cette information et à pas mal de calculs trigonométriques, je parviens à déduire l'altitude des nuages d'astrophage. L'altitude de reproduction est de 91,2 km au-dessus de la surface. L'épaisseur de la zone est de moins de 200 mètres.
Rocky referme une de ses pinces sur une autre. Je connais ce langage corporel. Il réfléchit.
Si prédateur existait, prédateur là.
Je suis d'accord. Mais comment en récupérer un échantillon?
Quelle altitude orbite possible? Question.
100 km au-dessus de la surface. Si on descend plus bas, le vaisseau brûlera dans l'atmosphère.
Dommage. 8,8 km de la strate reproduction. Impossible descendre davantage? Question.
Si nous heurtons l'atmosphère à notre vitesse orbitale, nous mourrons. Et si nous ralentissons?
Si ralentir, orbite pas bonne, tomber dans l'atmosphère, mourir.
Je me penche sur l'accoudoir pour le regarder. Nous pouvons utiliser les moteurs pour ne pas tomber dans l'atmosphère. Il suffirait de produire des poussées régulières. On pourrait descendre progressivement, récupérer un échantillon et repartir.
Pas fonctionner, nous mourir.
Pourquoi pas fonctionner?
Moteur émettre énormément IR. Si utilisé dans R, R devenir ion. Explosion. Vaisseau détruit.
Je grimace. Oui, bien sûr. Lorsque Dimitri a testé pour la première fois son moteur tournant, il a suffi de 100 microsecondes pour fondre un mètre cube de silicium métallique. Avec un millième de la puissance du dernière chance. Dans le vide, cela ne poserait aucun problème. Mais utiliser les moteurs dans l'air créerait une boule de feu à côté de laquelle une bombe nucléaire ferait l'objet d'un vulgaire pétard. Nous sombrons dans un silence frustré. Le salut de nos deux mondes se trouve une dizaine de kilomètres sous le vaisseau, hors de portée. Il y a forcément un moyen, mais lequel? Nous n'avons même pas besoin de descendre. Nous avons simplement besoin d'un échantillon d'air. Même tout petit.
Attendez une minute.
Comment faites-vous de la xénonite déjà? Vous mélangez deux liquides?
Rocky est pris de court par ma question. Il répond néanmoins.
Oui, prendre liquide et liquide, mélanger. Devenir xénonite.
Vous pouvez en produire combien? Quelle quantité de ces liquides avez-vous apporté?
Apporté beaucoup. Utilisé pour fabriquer ma zone.
Je crée un tableau et je commence à taper des nombres.
Il nous faut 0,4 mètre cube de xénonite. Pouvez-vous en produire autant ?
Oui. Avoir assez liquide pour produire 0,61 mètre cube.
Bien. Dans ce cas, j'ai une idée, dis-je en formant un triangle avec mes mains. C'est une idée toute bête. Lorsqu'elle fonctionne, les idées bêtes deviennent des idées de génie. Nous verrons comment les choses finiront. La strate de reproduction des astrophages se situe à une dizaine de kilomètres, dans les profondeurs de l'atmosphère. Impossible de faire descendre le vaisseau jusque-là, car l'air dehors serait trop épais et nous brûlerions. Et je ne peux pas non plus utiliser les moteurs dans l'atmosphère parce que cela nous ferait sauter. Il est donc temps de partir à la pêche. Nous allons produire une chaîne longue de 10 km, à laquelle nous accrocherons un genre de dispositif de récupération, Rocky nous fabriquera cela, que nous traînerons dans l'atmosphère. Facile, non? Eh bien, non. Le dernier chance doit maintenir une vélocité de 12,6 km par seconde pour rester en orbite. En dessous, nous perdrions de l'altitude et brûlerions. Si nous traînons cette chaîne dans l'air à cette vélocité, même une chaîne en xénonite, elle se disloquera et sera vaporisée. Nous n'avons d'autre choix que de ralentir, ce qui implique de tomber vers la surface. À moins que j'allume régulièrement les moteurs pour conserver notre altitude, mais alors les échappements vaporiseront la chaîne et la boîte, qui seront dans l'axe de la poussée. À moins que celle-ci soit inclinée, évidemment. Vu de l'extérieur, cela aura l'air insolite. Le dernier chance sera incliné à 30 degrés par rapport à la verticale. Ce sera également l'angle de la poussée des moteurs. En dessous, la chaîne se déroulera à la perpendiculaire sur 10 km. Derrière les moteurs, l'air sera un chaos de feu ionisé. Ce sera sûrement un sacré chaud. Ce chaos, cependant, sera derrière nous, et la chaîne traversera normalement un air non affecté. Notre vélocité latérale sera d'environ 100 mètres par seconde. La chaîne résistera sans problème à cette vitesse dans l'atmosphère supérieure raréfiée. D'après mes calculs, son inclinaison par rapport à la verticale ne sera pas supérieure à 2 degrés. Dès que nous aurons notre échantillon, ou que nous penserons l'avoir, nous déguerpirons. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, franchement? Je suis ironique, bien sûr. Je ne suis pas un expert en modélisation 3D, mais je suis capable de créer une chaîne avec un programme de conception assisté par ordinateur. Les maillons ne seront pas tout à fait normaux, cependant. Ils seront ovales, avec une mince ouverture pour laisser passer un autre maillon. L'assemblage sera aisé, tout en minimisant les risques de décrochage accidentel. Surtout lorsque la chaîne sera sous tension. J'attrape un bloc d'aluminium et l'installe dans la fraiseuse.
« Système fonctionné, question ?» demande Rocky depuis son tunnel au plafond.
« Il devrait. » Je mets en route la machine, qui fraise toute seule le moule du maillon tel que je l'ai conçu. Le résultat est à la hauteur de mes attentes. Je libère mon ouvrage et souffle sur les copeaux d'aluminium avant de le tendre vers le tunnel. « Qu'est-ce que vous en pensez ?»«
Excellent. Besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup maillons. » Besoin plusieurs moules pour fabriquer plusieurs à la fois. Possible fabriquer plusieurs moules? Question.
Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup d'aluminium, réponds-je en me tournant vers le placard de fourniture.
Beaucoup objets non utilisés dans vaisseau, deux lits dans dortoir, fondre et faire bloc pour nouveaux moules.
Waouh! Vous ne faites pas dans la demi-mesure, vous?
Pas comprendre.
Je ne vais pas faire fondre des objets. Comment m'y prendrais-je, d'ailleurs?
Astrophage, fondre n'importe quoi?
Je n'y avais pas pensé. Mais non, mon système de support vie ne pourrait pas gérer toute cette chaleur. À ce propos, pourquoi avez-vous tellement d'astrophages?
Après une pause, il répond « Étrange histoire ».
Il attire mon attention. Les histoires étranges, j'adore cela. J'entends ses pinces cliqueter dans son tunnel, comme il s'installe dans une section plus large.
Éridien scientifique, faire calcul, prévoir voyage. Beaucoup carburant signifie voyage plus rapide, alors produire beaucoup, 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 beaucoup astrophages.
Mais comment en avez-vous produit autant?
Sur Terre, on a eu énormément de mal à obtenir la quantité nécessaire.
Très facile. Enfermé dans boules de métal avec dioxyde de carbone. Plongé dans océan. Attendre. Astrophage doublé, doublé, doublé. Beaucoup astrophage.
Ah, parce que vos océans sont plus chauds que les astrophages.
Oui. Pas le cas sur Terre, question. Triste.
En matière de production d'astrophages, Eride est très avantagée. La planète tout entière est une cocotte minute géante. Avec 29 atmosphères à 210 degrés, l'eau est liquide à la surface, et les océans sont bien plus chauds que la température critique de l'astrophage. Les Éridiens n'ont donc qu'à y plonger ces derniers, qui se multiplient en absorbant la chaleur de l'eau.
Je suis jaloux.
Nous avons quand même dû paver le Sahara pour produire nos astrophages. La chaleur cumulée des océans d'Éride est colossale. Une quantité inimaginable d'eau, bien plus que sur Terre, à une température de 200 degrés ou plus, cela fait beaucoup d'énergie.
C'est également la raison pour laquelle les Éridiens ont un bon siècle pour résoudre le problème des astrophages, alors que la Terre risque de geler dans quelques décennies. Leur atmosphère n'est pas la seule à stocker de l'énergie. Leurs océans en stockent davantage. Comme je vous l'ai dit, ils sont très avantagés.
Éridiens scientifiques, prévoir besoin en carburant du vaisseau. Voyage prendre 6,64 années.
Cela me désarçonne. 40 Éridani se trouvent à 10 années-lumière de Tau Ceti, ce qui signifie qu'on ne peut pas aller de l'une à l'autre en moins de 10 ans du point de vue éridien. Il doit vouloir dire 6,64 années vécues dans le vaisseau grâce à la dilatation du temps.
Chose étrange arrivée durant voyage. Équipage malade. Mourir. Maintenant, connaître radiation.
Ajoute-t-il d'une voix plus grave.
Je baisse les yeux et lui laisse le temps d'exprimer sa tristesse.
Tout le monde malade. Tout seul piloté vaisseau. Encore chose étrange arrivée. Moteur fonctionnait mal. Moi, expert moteur. Pourtant incapable d'identifier problème.
Vos moteurs sont tombés en panne?
Non, pas panne. Poussée normale. Mais vitesse pas augmentée. Pas explication.
Il fait les 100 pas sans cesser de parler.
Autre chose étrange. Arrivé mi-parcours trop tôt. Beaucoup trop tôt. Retourner vaisseau pour ralentir. Alors tôt s'éloigner.
Comment?
Question. Toujours avancer vers tôt, mais tôt s'éloigner. Confusion.
Oh! Une pensée s'immisce dans mon esprit. Une pensée pour le moins déconcertante.
Accélérer, ralentir, grande confusion. Arriver finalement, malgré erreur et confusion. Arriver en 3 ans. Moitié moins temps prévu par Éridien scientifique. Confusion. Confusion.
Mon Dieu, marmonnai-je.
Rester beaucoup, beaucoup, beaucoup carburant. Trop. Pas plaindre. Confusion.
Oui, bien sûr. Dites-moi, le temps sur Éride, est-il le même que le temps à bord de votre vaisseau?
Question aucun sens,
proteste-t-il en penchant sa carapace sur le côté.
Évidemment, temps identique partout.
Mon Dieu. « Mon Dieu !» dis-je en me prenant la tête à deux mains. « Les Éridiens ne connaissent pas la physique relativiste. Ils ont planifié leur voyage grâce à la physique newtonienne. Ils sont partis du principe qu'ils pourraient accélérer à l'infini, comme si la vitesse de la lumière n'était pas un problème. Ils ne sont pas familiers de la dilatation du temps. Rocky ignore qu'il s'est passé bien plus de temps sur Éride que dans son vaisseau. Ils ne connaissent pas la dilatation des longueurs. La distance jusqu'à Tau Ceti augmente à mesure qu'on ralentit relativement à elle, et ce même si on continue d'avancer. Une planète entière de gens intelligents a construit un vaisseau fondé sur des hypothèses scientifiques fausses. Et par miracle, le seul survivant de l'expédition s'est montré suffisamment malin pour arriver à destination en résolvant les problèmes un à un. Et mon salut est venu de cette énorme foirade. Il pensait avoir besoin de beaucoup plus de carburant. Voilà pourquoi Rocky en a à foison. Rocky, installez-vous confortablement.
Je vais vous parler de science et ça va être long. » Il frappa deux fois et se pencha dans mon bureau.
« Dr. Grace, vous êtes le Dr. Grace ?»
Ce n'était pas un grand bureau, mais avoir un espace privatif à bord d'un porte-avions était déjà un privilège. Avant d'avoir l'insigne honneur de devenir mon bureau, cet espace était une réserve de fourniture de salle de bain. Il y avait tout de même 3 000 culs à torcher sur ce navire. Ce placard resterait à moi jusqu'à notre prochaine escale. Alors, on referait le plein de fourniture. J'étais à peu près aussi important que du papier toilette. Je levai les yeux de mon ordinateur portable. L'homme, de petite taille et un peu débraillé, me fit maladroitement signe. « Ouais, c'est bien moi. Et vous êtes ?»«
Hatch, Steve Hatch, Université de Colombie-Britannique. Heureux de vous rencontrer. »
Je lui montrai la chaise pliante devant la table pliante qui me servait de bureau. Il entra donc en portant un objet métallique et bulbeux que je ne reconnus pas et qu'il posa devant moi. J'examinai la chose. On aurait dit un ballon d'exercice écrasé entre un triangle d'un côté et un trapèze de l'autre. Il s'assit et étira ses bras.
« C'est carrément bizarre. C'est la première fois que je prends l'hélicoptère. Et vous, vous l'avez déjà pris ?»« Évidemment, je suis bête. Autrement, comment seriez-vous arrivé jusqu'ici ? Enfin, vous auriez pu venir en bateau, mais non. Il paraît que le porte-avions reste loin des côtes au cas où il se produirait un désastre durant une expérience avec les astrophages. J'aurais préféré le bateau, franchement. J'ai bien failli dégobiller dans cet hélicoptère. Notez que je ne me plains pas. Je suis trop content de participer. »
Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je en désignant l'objet sur le bureau.
Ah oui, s'anima-t-il davantage. C'est mon scarabée. Enfin, c'est un prototype. Mon équipe et moi pensons avoir réglé tous les problèmes majeurs. Enfin, ce n'est jamais vraiment le cas, mais on est prêt pour les tests moteurs. Et l'université dit que ces tests doivent être pratiqués sur le porte-avions. Le gouvernement de la province de Colombie-Britannique aussi. Et le gouvernement national du Canada également. Je suis canadien, au fait. Mais ne vous en faites pas. Je ne suis pas un de ces Canadiens anti-américains. Je vous trouve plutôt cool dans l'ensemble.
Un scarabée ?
Ouais.
Il souleva l'objet et me montra le trapèze.
L'équipage du Dernière Chance nous enverra ses données grâce à lui. C'est un vaisseau interstellaire miniature qui naviguera automatiquement et retrouvera le chemin de la Terre, depuis Tau Ceti ou d'ailleurs. Mon équipe et moi avons bossé dessus toute une année.
Je jette un coup d'œil dans le trapèze, où j'avise une surface brillante semblable à du verre.
C'est un moteur tournant, manquis-je.
Absolument. Bref, ces Ruskov savent ce qu'ils font. On a repris leur plan, et tout s'est goupillé parfaitement. A priori, on n'a pas encore testé le moteur. La navigation et la direction sont les éléments les plus délicats du design.
Il retourne à l'objet pour me montrer la partie triangulaire.
C'est là que se trouvent les caméras et l'ordinateur. Il ne sera pas question de navigation inertielle ou de ce genre de conneries. Il utilisera la lumière visible ordinaire pour identifier les étoiles et les constellations et naviguera grâce à ça.
Il tapota la partie bulbeuse.
Il y a un petit générateur du courant continu là-dedans. Tant qu'il y aura des astrophages, nous aurons de l'électricité.
Que pourra-t-il transporter ?
Des données. Il contiendra un système RAID redondant avec bien plus de mémoire qu'il n'en faudra.
Avec l'articulation de l'index, il donna un petit coup sur le dôme qui résonna faiblement.
Le gros du volume sera réservé au carburant. Il aura besoin d'environ 125 kg d'astrophages pour rentrer à la maison. Ça peut paraître beaucoup, mais putain, 12 années-lumière!
Je soulevai l'objet et le sous-pesais. Comment tournera-t-il?
Des roues de réaction. Elles tournent d'un côté, le vaisseau vire de l'autre. Fastoche!
La navigation interstellaire est fastoche, m'amusai-je.
Ouais, enfin, pour ce qu'on a à faire. Un récepteur sera constamment à l'écoute d'un signal émis depuis la Terre. Dès qu'il l'entendra, il enverra ses coordonnées et attendra les instructions du Deep Space Network. Nous n'avons pas besoin d'être super précis, mais simplement d'arriver à porter des émissions radio de la Terre. À partir de l'orbite de Saturne, ce sera nickel.
Alors les scientifiques lui expliqueront comment rentrer, l'approuvai-je en hochant la tête.
« Malin ?»«
Ouais, sans doute, » dit-il en haussant les épaules. « Mais ils n'en auront pas besoin. Ils lui ordonneront d'abord de transmettre toutes ces données. Quand ce sera fait, ils récupéreront la sonde si ça les amuse. Au fait, on va en faire 4. Il suffira qu'une seule d'entre elles arrive à bon port.
Je retournais le scarabée dans tous les sens. Il était étonnamment léger, 2 ou 3 kilos, pas plus.
D'accord. Donc il y en aura 4. Quelles seront leurs chances de retrouver la Terre? Les systèmes embarqués seront-ils redondants?
Pas tellement, mais leur voyage ne sera pas aussi long que celui du Dernière Chance. La durabilité des différents éléments sera moins problématique.
La route sera la même, non? Pourquoi le voyage du retour serait-il plus court?
Parce que l'accélération du Dernière Chance sera limitée par les humains tout mous et fragiles qu'il transportera. Le scarabée n'aura pas ce problème. À l'intérieur, toute l'électronique et les pièces seront dignes d'un missile de croisière et capables d'encaisser des centaines de jets d'accélération. Le scarabée atteindra une vitesse relativiste bien plus rapidement.
Intéressant. Je me demandais si cela pouvait faire un bon exercice pour mes élèves, mais je balayais cette idée. Les connaissances en mathématiques nécessaires dépasseraient de très loin les connaissances de l'élève de 4e moyen.
Ouais, poursuivit Hatch. Ils accéléreront à 500 G jusqu'à atteindre leur vitesse de croisière, soit 0,93 C. Il leur faudra 12 ans pour rentrer sur Terre, mais de leur point de vue, il ne s'écoulera qu'une 20aine de mois. Vous croyez en Dieu? Je sais que c'est une question personnelle. Moi, j'y crois, et je le remercie d'avoir créé la relativité. Plus on va vite, moins il s'écoule de temps pour nous. C'est un peu comme s'il nous invitait à explorer l'univers, vous ne croyez pas?
Il se tut et me regarda fixement. Eh bien, c'est vraiment impressionnant. Excellent travail.
Merci. Je pourrais avoir un peu d'astrophage pour le tester?
Bien sûr. Combien vous en faut-il?
Disons 100 mg.
Oula! Doucement, cow-boy! Protestai-je avec un mouvement de recul. Ça fait beaucoup, beaucoup d'énergie.
D'accord, d'accord. Vous ne m'en voudrez pas d'avoir essayé, hein? 1 mg, alors.
1 mg, ça me va.
Génial!
S'enthousiasma-t-il en frappant dans ses mains.
Par ici, petits astrophages. C'est quand même génial, hein?
Poursuivit-il en se penchant vers moi.
Les astrophages, je veux dire. C'est le truc le plus cool qui soit. Encore une fois, Dieu nous offre le futur sur un plateau.
Cool? On parle d'une extinction de masse. Dieu nous offre surtout l'apocalypse sur un plateau.
Ouais, peut-être, me concéda-t-il dans un haussement d'épaule. Mais quand même, le système de stockage de l'énergie parfait. Imaginez une maison alimentée par piles. Imaginez une pile taille AA, mais pleine d'astrophages. Ça suffirait pour alimenter la maison pendant 100 000 ans. Imaginez une voiture qui n'aurait jamais besoin de faire le plein. Ce sera la fin du concept de distribution de courant. De l'énergie renouvelable et propre, surtout quand on commencera à produire les astrophages sur la Lune ou un truc comme ça. Ils n'auront besoin que de la lumière du soleil.
Propre? Renouvelable? Vous êtes en train de me dire que l'astrophage sera bon pour l'environnement? Si c'est le cas, vous vous trompez. Même si le Dernière Chance découvre une solution, il y aura extinction de masse. Dans 20 ans, tout plein d'espèces auront disparu de la surface de la Terre. Nous faisons simplement notre possible pour que l'humanité ne soit pas de celle-là.
Il rejeta mon argument d'un geste dédaigneux de la main. La Terre a déjà vécu 5 extinctions de masse, et les humains sont malins. Nous nous en sortirons.
On va crever de faim. Des milliards de gens vont mourir.
Non. On stocke d'ores et déjà de la nourriture. Et nous avons pas mal de méthane dans l'atmosphère pour retenir l'énergie solaire. Ça va bien se passer. À condition que le Dernière Chance réussisse.
Je le fixai longuement du regard avant de conclure. Vous êtes, sans aucun doute, la personne la plus optimiste que j'ai jamais rencontrée.
Merci,
répondit-il en brandissant 2 pouces. Il reprit le scarabée et tourna les talons.
Allez, viens, Pete. On va te trouver un peu d'astrophage.
Pete?
Ouais,
confirma-t-il en me regardant par-dessus son épaule.
Je leur ai donné le nom des Beatles. Vous savez, le groupe de rock anglais.
Vous êtes fan, alors? Il pivota sur ses talons et me fit face.
Fan? Oui, bien sûr, sans exagérer. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band est le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire de la musique humaine. Je sais, certaines personnes ne seront pas d'accord, mais elles ont tort.
D'accord, mais alors pourquoi Pete? Si je ne m'abuse, dans les Beatles, il y avait John, Paul, George et Ringo.
C'est vrai. John, Paul, George et Ringo seront à bord du Dernière Chance. Mais celui-ci ne sera testé qu'en orbite terrestre basse. SpaceX va effectuer un lancement rien que pour moi.
Génial, non? Bref,
Je l'ai baptisé en l'honneur de Pete Best, le batteur des Beatles avant Ringo.
Ah, je l'ignorais.
Maintenant, vous le savez, je vais aller chercher ces astrophages. Je dois m'assurer que les scarabées seront capables de... Get back.
Ça marche.
Get back, vous savez, la chanson des Beatles.
Oui, oui, je sais.
Il pivota sur ses talons et s'en fut.
Certaines personnes n'apprécient pas les classiques à leur juste valeur,
se plaignit-il.
Il disparut donc en me laissant stupéfaite dans son sillage. Et je n'étais probablement pas sa première victime.